Bonjour à tous. Donc, comme Jean-Marc le dit, je suis retraitée depuis une année. J'ai été à la CLC, à la librairie chrétienne CLC de Saint-Étienne pendant 5 ans et sur Lyon, 11 ans. Donc, c'était une vie pleine de joie. Et comme je leur disais à tous les deux, une de mes joies de ce métier, c'était de voir la puissance de Dieu agir directement chez les personnes. De quelle façon Dieu se révélait à des personnes et combien de fois des personnes ont ouvert la porte, hommes ou femmes, me disant « Madame, vous allez me prendre pour un fou, mais on dirait que Dieu me cherche ». Et puis là, c'était magnifique. Et un des derniers souvenirs qui me reste, c'est ce monsieur rentrant d'une façon un peu brutale à la librairie, un monsieur, vous allez voir mon mari, il n'est pas petit, plus grand que mon mari et plus fort, rentrant et me disant « Madame, je viens de vivre quelque chose d'exceptionnel sur la place Bellecour. Il y a des jeunes qui chantent Dieu, qui parlent de Dieu. Il y en a un qui m'a parlé de Dieu. Mais c'est révolutionnaire. Jamais personne ne m'a parlé de Dieu. Mais pourquoi Dieu ? Personne ne m'a parlé de Dieu comme ça. Mais c'est révolutionnaire. Je suis complètement... J'ai dit, ben, voilà, c'est magnifique. Elle me dit oui. Et donc, ce jeune homme m'a dit que tout était consigné dans un livre, la Bible. Donc, il m'a dit que je vienne le chercher. Je viens chercher la Bible. Donc, d'accord. Donc, je lui propose une Bible. Bon, voilà, une petite Bible, pas trop chère et tout ça. Et puis, lui, il regarde. Il choisit une des Bibles les plus chères, en cuir, Bible d'études. Voilà. Non, c'est celle-là que je veux. J'ai dit, mais c'est une Bible d'études. Et je lui explique un petit peu qu'est-ce que c'est. Mais c'est tout à fait ce que je veux, qu'il me dit. Et donc, j'ai dit, ben, vous n'avez jamais lu la Bible, peut-être que je vais pouvoir vous expliquer. Ah non, 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 non. Hein. Si le Dieu dont ce jeune homme m'a parlé, il est grand, il va se révéler à moi directement. Vous ne me donnez aucune explication. Je prends la Bible et je la lis. J'étais un peu... J'ai dit, bon, bah, écoutez, je vous explique quand même qu'est-ce que c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament qui parle de Jésus. Donc, qu'est-ce que c'est, quand vous allez chercher dans les explications, qu'est-ce que c'est un verset, qu'est-ce que c'est un chapitre. Et, mais voilà, c'était juste ce que je lui ai dit. Et le monsieur est parti et les mois ont passé et je ne l'ai jamais plus revu. Et puis, voilà qu'un jour, il rentre aussi d'une façon brutale. Il se met devant le comptoir, il ouvre sa sacoche, plaf! Et il me met la Bible sur le comptoir. Je dis, oh là, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il me dit, alors là, madame, vous savez, ça, c'est vivant. La parole est vivante. Ça parle, ça m'a parlé. Ah, j'ai dit, ah bon? Et ça vous a parlé? Et là, il me parle et il me dit le salut. Il a tout compris, tout seul. Là, j'étais incroyable, il avait tout compris, quoi. Et j'ai dit, bah, écoutez, c'est merveilleux, le Seigneur agit vraiment dans votre vie. Et il me dit, oui, mais vous vous rendez compte, j'ai 45 ans. Ma vie aurait tellement changé si j'avais rencontré Dieu avant. Et puis maintenant, je suis responsable, hein. Je sais, donc je dois partager. Et il venait justement pour acheter des Bibles, pour le donner autour de lui. Voilà. Voilà.
Merci Charo. Donc Charo qui a travaillé pendant 5 ans à la croisade du livre chrétien, CLC. On a eu un téléphone cette semaine qui va dans le même sens, de Geneviève et Thierry. Vous vous rappelez, c'est de ce couple qui était là, qui a rendu témoignage il y a quelques semaines. Lui était gravement malade, il a subi une transplantation au niveau des poumons. Et ils ont à cœur de témoigner. Alors, il faut imaginer, hein, ils ont à cœur de témoigner auprès des motards et dans les concerts, des regroupements de motards, hein, les bikers, et puis dans les concerts de rock très, très durs. Et donc, ils sont là, au milieu de tout ça, avec leur Bible, etc., leur moto, parce qu'ils font de la moto. Et ils nous ont appelé cette semaine pour nous dire, bah, écoutez, merci pour le témoignage qu'on a pu donner à l'église, à Kevin. Ça nous fait tellement du bien d'être encouragés. Et vraiment, vous les avez encouragés dans leur service. Et donc, ils sont repartis tout feu, tout flamme. Lui va mieux depuis son intervention. Et ils nous témoignaient au téléphone qu'ils ont participé à un regroupement de bikers au Tréport, hein, c'est ça, en Normandie. Et là, ils ont été au milieu d'un regroupement. Il faut imaginer tous les motards, blousons noirs, etc. Alors, je ne sais pas s'il y avait des Hells Angels, des anges de l'enfer. Mais en tout cas, dans ce milieu-là, ils sont allés comme des envoyés, des anges de l'éternel. Et il dit qu'ils ont distribué plus de 200 Bibles. 200 Bibles à des bikers qui disaient « Mais on a besoin, on en a envie, donc donnez-nous !» Et puis qui venaient chercher des Bibles. Alors, il y a un pasteur qu'ils connaissent bien qui dit « Mais vous n'avez pas fréquenté ces milieux-là, vous n'avez pas allé dans cet environnement-là néfaste et sombre. » Alors, eux, ils sont un peu peinés. Ils ont été encouragés par vous quand ils ont donné ce témoignage et qu'ils ont vu l'impact que ça faisait sur vous et puis le fait de prier pour eux. Et du coup, ils sont allés à ce rassemblement. 200 Bibles données à des hommes et à des femmes qui ont soif aussi de connaître Dieu. Alléluia. On va laisser la place à Patrick. Alors vous allez voir, derrière tout grand homme, est-il dit, il y a une femme. C'est un beau gabarit. Mais c'est surtout un frère et un ami très, très, très cher. On a beaucoup d'amour pour lui et sa femme. Donc il va se présenter, puis il va apporter la parole du Seigneur à toi.
Bonjour à tous. On aura peut-être l'occasion quand même tout à l'heure de parler un petit peu ensemble, de se présenter plus amplement. Alors c'est vrai que nous avons été ici depuis les années, c'était en quelle année qu'on est arrivé à 78 et on est quitté en 89 et puis on est parti à Blois 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'avais trouvé un travail de commercial qui m'emmenait sur la route toute la semaine. Et ils m'ont dit, écoutez, merci Francis. Ils m'ont dit, il faut que vous trouviez un logement vers le centre de la France parce que c'est là-bas qu'on veut vous envoyer. Donc on s'est retrouvé à Blois. Et ensuite, il y avait un challenge. C'était de prospecter, parce qu'en fait, cette société n'était pas du tout représentée dans l'Est de la France, et entre autres dans la région lyonnaise. Donc, ils ont dit, est-ce que vous voulez aller par là? C'est un challenge. Il va falloir créer un portefeuille, créer une clientèle. J'ai dit, bon, bah, allez, on y va. Et quand on était à Paris, dans le groupe de jeunes, en fait, notre pasteur, c'était Charles-Édouard Péter, donc il était parti à Saint-Étienne. Alors on s'est dit, pourquoi pas aller à Saint-Étienne. Donc on s'est basé à Saint-Étienne, c'était à peu près le centre de notre secteur, enfin de mon secteur, puisque j'avais à peu près une douzaine de départements à prospecter. Et là-bas, il y a une église apostolique, bien sûr. Donc, et puis, le temps passant, on a eu plusieurs pasteurs et le dernier est parti il y a 10 ans et moi à ce moment-là j'étais à la retraite et comme j'étais le plus ancien des anciens on m'a dit écoutez, on ne peut pas vous trouver de pasteur tout de suite, pénurie de pasteurs dans l'église apostolique. Et est-ce que vous voulez prendre la responsabilité, prendre la responsabilité pastorale de l'Église jusqu'à ce qu'on vous trouve un pasteur? Donc, voilà, pendant 8 ans, j'ai eu la charge pastorale de Saint-Étienne. Et il y a 2 ans, on a enfin trouvé un nouveau pasteur que peut-être certains connaissent, puisqu'il s'appelle Serge Play, il est peut-être venu vous voir d'ailleurs. Voilà, donc on a maintenant un nouveau pasteur, Serge Play. Et voilà, ça se passe très bien parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment dans sa nature d'abord et puis aussi un appel pour l'évangélisation. Et c'est vrai que c'était pas mon... L'évangélisation, je sais pas trop faire ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à faire quelque chose qui me permette quand même de partager l'évangile puisque je suis aumônier depuis 6 ans au CHU de Saint-Étienne en psychiatrie. Et donc, ça me permet malgré tout de partager la bonne nouvelle, l'évangile avec ces personnes. Et j'avoue que c'est réjouissant de travailler avec ces personnes. Souvent, ils viennent, comme je dis, quand ils arrivent, on a un bureau, et c'est eux qui viennent avec l'autorisation des psychiatres et des infirmiers vers nous. Ils viennent vers nous, donc on a un bureau. Alors, c'est ce que je disais, ils viennent souvent avec la banane à l'envers, mais quand ils repartent avec la banane à l'endroit, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et ils nous disent « Ah, merci, merci, vraiment, on n'a rien fait. Hein. » Souvent, c'est eux qui parlent, parce qu'en fait, vous savez, l'aumônerie, c'est un travail d'écoute, plus qu'un travail où on parle. C'est eux qui, voilà, qui déversent un petit peu, souvent, ce qu'ils vivent. Et on sait ce qu'on leur dit, et c'est vrai. Vous aussi, vous nous avez apporté quelque chose, parce qu'en fait, il y a une réciprocité dans l'échange. Et l'échange est absolument primordial, absolument essentiel. Et ce serait peut-être un peu mon sujet, finalement. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le sujet de la prédication pour ce matin. Je voulais vous parler de comment lire la Bible et comment la méditer. Et puis, Francine et Jean-Marc m'ont dit que... beaucoup d'entre vous, vous vous réunissiez pour partager sur la Bible, la méditer. Et puis, même auparavant, j'ai passé pratiquement une semaine dessus pour la préparer. Et puis, je me sentais, à la fin de la semaine, je me suis dit, oh, il faut que je fasse autre chose. Alors, j'ai préparé autre chose. Et puis, cette autre chose ne va pas non plus. Alors, ce sera un mixte entre ce que j'avais préparé au départ et ce que j'ai préparé à la fin. Et en fait, on va revenir un petit peu quand même sur la méditation, parce que je pense que c'est quand même quelque chose de primordial et d'essentiel. Et même si vous êtes des personnes qui partageaient, qui lisaient la parole de Dieu, je pense qu'il y a toujours des choses à découvrir, ou du moins à partager à ce sujet. Alors, pour méditer la parole de Dieu, il est en fait... indispensable, je dirais, de prendre conscience que la priorité du chrétien est de connaître Dieu. Si on médite la parole, ce n'est pas seulement pour avoir des connaissances, mais c'est d'abord pour connaître Dieu. Le moyen d'acquérir, en fait, je dirais, cette connaissance, et c'est la méditation, bien sûr, de la parole. Mais la parole, elle n'est pas seulement écrite. La parole, elle est aussi verbale, comme son nom l'indique. Il est impossible de connaître, je dirais, un sujet, et d'ailleurs, quel que soit le sujet, sans que le savoir ne soit transmis, et bien entendu, un de ses moyens est l'écoute de la lecture de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons ce matin, et c'est ce qu'on fait en général tous les dimanches matins au culte. Est-ce suffisant ? Pas sûr que ce soit suffisant. Dans Marc, chapitre 8, verset 18, Jésus a dit « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. » Et dans l'Apocalypse, le Seigneur dit à chacune des églises que celui qui a des oreilles entende. Alors on le voit aussi au chapitre 2, verset 7, au verset 11, verset 17, etc. Finalement, l'écoute de la parole de Dieu est importante et elle demande de notre part une attention particulière. Écouter et prêter l'oreille sont deux expressions qui reviennent souvent dans la Bible. Le mot écouter décrit, je dirais, le son qui est produit, alors que prêter l'oreille désigne l'attention que nous prêtons à ce son. En raison d'ailleurs de l'importance que nous y apportons. Ça dépendra aussi de notre façon d'entendre les choses, de notre attention à entendre les choses. Le livre des Proverbes déclare au chapitre 8, verset 34, « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille de jour en jour à mon seuil, qui monte la garde près des montants de mes portes. » Le prophète Amos, pour sa part, a dit quelque chose d'assez étonnant. Au chapitre 8, verset 11, « Voici, les jours viennent où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une disette de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Magnifique. Ce dont nous parle l'Écriture, bien sûr, dans ce passage, n'est pas une famine de prédication, ou une famine de conférences, ou une famine d'études bibliques, ou de séminaires, ou de livres, mais d'écoute de la parole de Dieu. Alors, entendre, ça implique quoi? Il y a trois conditions essentielles. La première, entendre, c'est obéir. Pour entendre, il est primordial d'obéir en permanence, pour entendre en permanence. Quand Moïse s'est adressé au peuple d'Israël, il a dit ceci dans Deutéronome au chapitre 5, verset 1, « Écoute Israël, les prescriptions et les ordonnances que je proclame aujourd'hui à vos oreilles. Apprenez-les, observez-les pour les mettre en pratique. » Une autre traduction dit « Apprenez, veillez à les mettre en pratique. » Veillez à les mettre en pratique. La mise en pratique des ordonnances n'est pas seulement la conséquence d'avoir écouté, mais c'est plutôt le résultat d'une volonté de les mettre en pratique. Ce message est clair. Dieu attend de son peuple qu'il écoute, qu'il prête l'oreille et qu'il obéisse. Toujours dans Deutéronome, au chapitre 6, verset 3, Moïse explique que la bénédiction est le fruit de l'obéissance des ordonnances. Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous soyez nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays dans lequel coule le lait et le miel. Finalement, ici, on s'aperçoit que l'obéissance engendre des bénédictions, ou là où coule le lait et le miel. La parole de Dieu raconte des situations qui sont souvent, d'ailleurs, pour nous, des exemples à suivre. C'est d'ailleurs pour ça que la Bible, on l'appelle la parole de Dieu, parce que quand on la lit, très souvent, un passage va nous permettre de nous identifier à la situation dans laquelle nous nous trouvons et qui correspond parfois à ce que nous lisons. On s'identifie aussi parfois à des personnages bibliques, parce qu'on vit un peu la même chose que ce personnage a vécu. Parce que la parole de Dieu est vivante, parce que derrière, il y a le Saint-Esprit qui parle. Finalement, ça ne s'adressait pas seulement au peuple d'Israël, mais ça s'adresse aussi à nous aujourd'hui en tant que peuple de Dieu. Lorsque Dieu a parlé au jeune Samuel, quand il était auprès du sacrificateur Élie, la quatrième fois quand Dieu l'a appelé, vous savez que les trois premières fois, il va voir Élie, puis il dit « Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'as appelé ?» Mais il dit « Non, je ne t'ai pas du tout appelé. » Il a retourné se coucher. Et la quatrième, qu'est-ce qu'il dit? Parle, ton serviteur écoute. Tout à coup, il y a eu un déclic. Il a compris qu'il fallait écouter. Et il savait maintenant d'où ça venait. Dans cette courte phrase, il y a la volonté d'être attentif à ce que Dieu va lui dire. L'apôtre Jacques, au chapitre 1, versets 22 à 24, met en évidence la folie qui consiste à écouter sans obéir. Voilà ce qu'il dit. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et a oublié comment il est. J'aime bien cette image. Si on traduisait littéralement, ça donnerait « Efforcez-vous de devenir des gens qui mettent en pratique la parole et pas seulement des auditeurs. » Et là, c'est important parce que c'est vrai qu'on peut aimer la parole et l'écouter, mais est-ce qu'on met en pratique ce qu'on entend ? Pas forcément, hein, pas toujours en tout cas. Lorsqu'on est béni par la prédication ou par un enseignement régulier de la parole, on peut devenir attaché, je dirais, à la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. Qu'on se satisfait de cette connaissance. Le risque est qu'on ne s'efforce plus de vivre les vérités que l'on a comprises. La deuxième, c'est entendre, c'est croire. La foi est essentielle lorsque nous entendons la parole de Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux explique que la raison pour laquelle les Israélites ne sont pas entrés dans Canaan, c'est parce qu'ils ne crurent pas à la parole de Caleb et de Josué. Hébreux 4, verset 2, la parole qu'ils avaient écoutée ne le servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. La parole peut être donnée. La parole peut être donnée d'un côté et entendue de l'autre, mais s'arrête au niveau du cerveau, c'est-à-dire de la connaissance, de l'intellect, mais ça ne pénètre pas notre être. Et ça nous arrive à tous. Non seulement la foi est indispensable en écoutant la parole de Dieu, mais la foi augmente lorsque nous écoutons. Paul dit, par exemple, dans Romains 10, verset 7, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Est-ce qu'on en est certain de cela ? Troisièmement, entendre, c'est recevoir. Le livre des Proverbes, au chapitre 1, versets 1 à 5, dit « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu te gardes avec moi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Finalement, entendre dans l'obéissance de la foi, c'est le moyen de communication de la vérité. Une vérité qui nous introduit dans une connaissance de Dieu lui-même et qui ne fera qu'augmenter à fur et à mesure que nous lirons la parole de Dieu ou que nous l'écouterons. Pourquoi est-ce important de lire les Écritures ? Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 13, Paul a écrit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Ici, il est parlé d'une lecture qui doit se faire en public. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait encore le manuscrit, il n'y avait pas de manuscrit du Deuxième Testament, ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Les textes qui existaient étaient ceux du Premier Testament, qu'on appelle l'Ancien. Moi, je préfère dire le Premier. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous dirai, mais après la prédication, après la réunion. Sinon, ce serait trop long à expliquer. Les textes qui existaient à cette époque-là, c'était ceux du Premier Testament. Et Jésus, quand il parlait et qu'il prenait des références, c'était toujours dans le premier. Pourquoi ? Parce que les textes n'existaient pas encore, ils n'avaient pas encore été écrits. Les textes qui existaient, c'était les lettres que l'apôtre Paul envoyait dans différentes églises. Et quand il envoyait une lettre, par exemple, à Rome ou à Éphèse, c'était pour plusieurs lieux de culte. Il n'y avait pas qu'une seule église, il n'y avait pas un seul lieu, il y avait différents lieux. Et cette lettre circulait, et parfois elle était copiée, et c'était la copie qui allait dans... Finalement, ça se multipliait dans les différents lieux de culte de chacune des églises. Ici, Paul souligne l'importance de la lecture de la parole de Dieu. Et c'est en parlant que l'on apprend à se connaître. On est d'accord. C'est quand on se parle entre nous qu'on apprend à se connaître. Parler avec Dieu, à Dieu, pardon, dans la prière, parler de lui par le témoignage, le laisser parler en lisant la Bible. Alors, comment lire la Bible ? Eh ben, il y a une littérature considérable hein, qui propose des méthodes de lecture, des méthodes qui sont parfois des méthodes systématiques sur un an ou sur trois ans. Bon. Il n'est pas question d'imposer un système, bien sûr, un système qui serait supérieur à un autre. Toutes les méthodes ont chacune une valeur pour la lecture. Ce qui est essentiel, c'est le contact dans la durée avec la parole de Dieu. C'est la durée. C'est la constance dans la lecture. L'important, c'est que ça corresponde à un engagement. Un engagement qui soit dans la discipline. Que ça réponde à une recherche sincère aussi, bien sûr. Recherche de la vérité, ainsi qu'une recherche de croissance personnelle. Il faut aussi que ça apporte des informations pertinentes et non pas philosophiques ou intellectuelles, mais plutôt dans le concret de la vie quotidienne, qui nous permettent de découvrir les traits, je dirais, toutes les vraies valeurs spirituelles de la Bible. Il est évident qu'en lisant régulièrement la parole de Dieu, on y trouvera des réponses à nos questions personnelles, ainsi que les enseignements dont on a besoin pour construire un cheminement spirituel. Alors, quelques petites choses pratiques. Comment organiser un bon projet de lecture ? D'abord, un programme de lecture qui soit clairement défini, et si possible journalier. Un temps clairement mis à part pour la lecture, si possible le matin. Bon, il y a certaines personnes qui préfèrent lire le soir. Alors, à ce propos, un théologien a dit « Pourquoi accorder les instruments quand le concert est fini ?» J'aime bien cette phrase parce que finalement... C'est vrai qu'à la fin de la journée, pourquoi présenter la journée hein ? Il vaut mieux la présenter le matin. En plus, on a souvent les idées plus claires. On est en forme le matin et le soir, on est plutôt fatigué, avec le risque de s'endormir en priant. C'est un peu gênant. J'ai eu un petit exemple à ce sujet. C'était à Colding, on avait des amis dans le collège biblique, un couple qui avait eu des jumeaux. Et ils étaient dans le lit en train de, tous les deux en train de prier, enfin c'est lui qui priait, Seigneur, il y avait des personnes qui venaient les voir, ils étaient dans un train et ils prient et puis ils disent Seigneur, tu les bénis, tu les gardes dans le train et puis le chef de gare qui le chef de gare qui les garde et puis il s'endort. Enfin voilà, vous voyez, donc c'est dangereux de prier le soir quand on est fatigué finalement. Et sa femme, ça va pas, alors tu t'endors. Un grand coup de coude. Il vaut mieux le faire le matin quand même parce que c'est vrai qu'on a les idées plus claires. Toujours prier pour affiner l'attention avant de lire. C'est vrai que ça nous prépare aussi. Ça en prend quelques instants. À remettre la lecture au Seigneur pour que notre esprit se libère de toute pensée négative ou des pensées de la journée, comme quoi, voilà, bien se libérer de tout cela, puis demander au Seigneur que le Saint-Esprit vraiment éclaircisse notre esprit pour qu'on soit ouvert au maximum à ce qu'il veut nous donner et nous dire. Prendre aussi des notes au passage. Hein. Lorsqu'il y a un passage qui nous touche particulièrement, bah, peut-être le noter. Hein. Lorsque vous sentez que Dieu veut vous parler d'une manière particulière dans un passage. Quelques autres remarques pratiques. Sachez qu'avec un temps, par exemple, de lecture de 15 minutes par jour, vous aurez lu la Bible en un an. Il y en a qui ont calculé ça. La lire d'un bout à l'autre prend en moyenne 71 heures. Alors, si vous voulez le faire d'une traite, vous avez intérêt d'être en forme. En 71 heures, en moyenne, hein, ça dépend à l'allure où chacun peut lire la Bible. Ça fait à peu près 52 heures pour le Premier Testament et puis 19 heures pour le deuxième. Jésus a dit dans Jean, au chapitre 8, versets 31 et 32, « Si vous persévérez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dwight Lyman de Moody, un évangéliste du 19e siècle, a dit « Je demandais plus de foi et je m'attendais à la recevoir comme une illumination directe venant du ciel. La foi ne vint pas, mais en lisant le chapitre 10 de la lettre aux Romains, il est dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ma foi changea et aujourd'hui j'ouvre ma Bible et ma foi grandit depuis ce moment. » Voilà un témoignage tout simple. L'apôtre Paul insiste aussi sur le fait que lire et comparer les textes bibliques est très important. On a un exemple dans les Actes, chapitre 17, verset 11, lorsqu'il décrit les habitants de la ville de Bérée, en les comparant à ceux de Thessalonique, voici ce qu'il en dit. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce que l'on leur disait était vrai. Ça, c'est important aussi. Quand quelqu'un vous donne une étude biblique ou une prédication, toujours vérifier si ce qui est dit correspond à ce que la parole de Dieu dit. C'est très important. Pendant des années, j'ai donné des études bibliques à Saint-Étienne et toujours je leur disais, écoutez, voilà ce que je vous dis, mais ce qui est important, c'est que vous vérifiez aussi ce que la parole de Dieu vous dit. Il faut que ce soit conforme. Je peux faire des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. Et c'est important aussi d'avoir cette capacité d'être réactif et de se dire, bon, voyons, s'il a dit ça, mais bon, je vais quand même vérifier. Il n'y a pas de mal, au contraire. Au contraire. Et on se nourrit d'autant mieux en vérifiant dans la parole de Dieu ce qui a été dit. C'est une forme de relire les choses et peut-être de la comprendre différemment. Parce que vous savez, quand un verset peut vous parler, mais de multiples façons, comme des fois, certains versets que vous lisez, vous les lisez une fois, deux fois, dix fois, ça ne vous fait rien. C'est une simple lecture. Puis un jour, tout à coup, on ne sait pas pourquoi, vous réalisez quelque chose. Et ce quelque chose, c'est peut-être en fonction d'une situation que vous avez sur le présent, ou tout simplement parce que, voilà, votre esprit est plus ouvert ce jour-là, et là, le Seigneur, le Saint-Esprit, vous parle et vous touche. Et là, ça s'imprègne en vous, là. Ça vous prend les tripes. Alors, voyons un peu le matériel qui peut aussi, les matériels qui peuvent vous aider dans la lecture de la parole. Alors, une bonne concordance, c'est pas mal une bonne concordance, parce que des fois, on a un mot ou une phrase, on ne sait plus où c'est, bah, voilà, ça peut nous aider, et il y a des outils pour ça. Un dictionnaire qui permet aussi de comprendre le sens de certains mots. en grec ou en hébreu. On en a parlé avec Marc, Jean-Marc, parce que effectivement, des fois, quand on compare avec certains mots qui sont les termes d'origine de la parole de Dieu, en hébreu pour le premier testament, en grec pour le deuxième, des fois, on comprend beaucoup mieux le sens des mots. Et on comprend mieux aussi pourquoi quand il y a 3, 4 ou 5 traductions différentes, parfois, ce n'est pas toujours les mêmes termes. C'est des termes qui sont en général synonymes. Mais voilà, la richesse des mots qui sont dans les langues d'origine sont très, très importantes et parfois nous révèlent des choses qu'on n'aurait pas compris en lisant simplement le mot en français. Mais quand je dis ça, ce n'est pas pour apprendre forcément l'hébreu et le grec, mais vous avez des traductions qui vous disent, voilà, tel mot, ça veut dire ça. Il y a des Bibles aussi qui sont interlinéaires avec la traduction spontanée juste en dessous de la ligne. Vous avez l'hébreu, puis en dessous, vous avez le français. Et ça nous ouvre, ça éveille. Un résumé de l'histoire biblique aussi, bien sûr, afin de comprendre les coutumes et les grandes lignes. D'autres traductions, comme je l'ai dit, c'est bien aussi d'avoir 2, 3 ou 4 traductions. Vous n'êtes pas obligé de tout acheter d'un coup. Hein. Moi, j'ai toujours la même. Une seconde, voilà, c'est. Mais sinon, j'en ai d'autres et qui me permettent aussi parfois de m'éclairer, parce que bon, cette traduction ne m'éclaire pas forcément. Et en lisant une autre traduction, mais c'est ça que ça veut dire. Un cahier pour noter aussi des notes. C'est bien aussi de noter. Moi, je m'aperçois qu'il faut que je note de plus en plus parce que je retiens de moins en moins. L'important, c'est de retenir ceci. Pour plus de clarté, il faut écrire le verset biblique et pas seulement les références. Je vais vous donner un exemple. Prenez 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, on fait 3 colonnes. Une première, c'est le thème étudié, par exemple, la référence, 2 Timothée 3,16. Je fais une 2e colonne, la parole de Dieu. J'écris le verset. Toute écriture est inspirée de Dieu, etc. Et un petit commentaire, par exemple, un point important. Aucune différence d'un livre à l'autre, puisque toute écriture est inspirée de Dieu. Et vous savez que la Bible, c'est un ensemble de livres, hein, ce n'est pas un livre unique. Bon, ça, c'est une petite méthode, hein. Chacun la sienne. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut s'organiser, et croyez-moi, la parole nous imprègne plus facilement et d'une façon plus efficace. Pour que le Saint-Esprit puisse nous rappeler aussi les paroles de Jésus, il faut qu'elles soient déposées dans notre mémoire, dans l'histoire de l'Église. Il y a beaucoup d'exemples de chrétiens qui étaient persécutés et qui sont encore aujourd'hui et emprisonnés pour leur foi. Ils ont nourri leur foi et leur espérance en répétant des versets. Ces versets, ils ne les avaient pas simplement dans la tête, c'était pas simplement une répétition intellectuelle. Non, pas du tout. C'était quelque chose qui devenait vivant dans leur être, quelque chose qui prenait corps en eux. Et c'est souvent dans les temps de paix que nous devons mémoriser justement les passages clés de l'Écriture. Parce que si un jour il y a des persécutions qui arrivent, ce sera plus compliqué. Jean, chapitre 14, verset 26. « Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est Jésus qui parle, c'est lui qui rappellera tout ce que je vous ai dit. » Si nous sommes certains de cela, alors les choses se font. Dans Nombre, chapitre 15, verset 37 à 39, et dans Josué, chapitre 1, verset 13, il est dit que les Israélites devaient se rappeler tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Vous savez qu'ils apprenaient des livres par cœur. Je me suis toujours posé la question comment ils pouvaient faire. Ils apprenaient des livres par cœur. Entiers. Alors c'est vrai qu'ils ont une méthode qui est assez intéressante, qui peut paraître ridicule pour certains, mais vous savez, c'est ce balancement d'avant en arrière. Ils récitent les versets, puis ils se balancent d'avant en arrière. On voit ça sur le mur de Jérusalem, le mur des Lamentations. Et ça leur permet de s'isoler de tout parasitage extérieur, je dirais. Et ça leur donne une concentration qu'ils n'auraient peut-être pas autrement. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça, bien sûr. Chacun sa méthode. Mais ils avaient su trouver le moyen pour non seulement les retenir, mais pour aller réciter et être concentrés sur ce qu'ils disaient. Dans Proverbe 3.1, il est parlé de l'enseignement. Dans Deutéronome 8.2, il est parlé du chemin parcouru dans le désert. Dans Luc 24, 5-6, lorsque les femmes ne trouvèrent pas dans le tombeau le corps du Seigneur, deux hommes leur dirent, souvenez-vous de cette manière dont il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Donc il y a toujours ce rappel à ce que le Seigneur enseignait. Parce que le Seigneur nous disait aux apôtres et à tous les disciples, se rappeler de cela et revenir à cela, toujours et encore. Il est important d'échanger la parole. Non seulement avec d'autres chrétiens, bien sûr, mais avec des personnes qui sont non-croyantes. C'est important. Malachie, au chapitre 3, verset 16, nous laisse entendre quelque chose quand il dit « Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. » Le cœur est enrichi comme ceux des disciples, bien sûr, qui allaient à Emmaüs. Ils se rappelaient de ça. Ils étaient tout retournés par cet échange qu'ils avaient eu avec le Seigneur. Luc 23, 24, 32. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ça devait être incroyable comme expérience. C'est vrai que des fois, on est envieux de ce que les disciples, les apôtres ont vécu lorsque le Seigneur était sur terre. En fait, les échanges personnels sont aussi importants que les prédications, aussi importants que les études bibliques, que les lectures que nous pouvons faire dans la parole de Dieu. Tout cela découle, je dirais, de l'enseignement que de Moïse a donné au peuple d'Israël. Ce que je vous propose, c'est de lire aussi dans Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et t'en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur les portes. La méditation doit nous faire sortir d'un isolement. Je dirais presque un isolement monacal. Il y a des personnes qui restent chez elles et qui sont à lire et toutes seules dans leur coin à méditer. C'est important d'échanger. C'est important parce que l'autre peut apporter quelque chose. L'échange est une bénédiction pour chacun. C'est très important d'échanger. c'est un enrichissement, autant pour celui qui apporte que pour celui qui reçoit, et réciproquement, bien entendu. C'est pour ça aussi que quand je suis en psychiatrie, ben, y a un échange. Et on est l'un et l'autre enrichis par ce que l'autre nous partage. Et parfois, les partages se font dans le silence parce qu'il y en a qui viennent et ils ne disent rien. Alors, on leur pose parfois une petite question pour savoir s'ils habitent Saint-Étienne, ou, etc. On parle un peu de la famille. Et des fois, c'est le silence. Mais c'est un silence qui a une densité. Un silence où il y a des choses, rien qu'à travers le regard, on se dit quelque chose. C'est assez impressionnant parfois. Mais je ressors des fois. Des fois c'est dur. La psychiatrie, c'est jamais facile. Mais quelle richesse! Alors bien sûr, il y a les réunions de maison hein, qui sont importantes, parce que ça permet d'échanger. Des fois, au culte, on n'a pas forcément le temps, parce qu'on vient juste pour la réunion, puis des fois, après la réunion, on s'en va tout de suite, parce que voilà, on a autre chose à faire à la maison, etc. Et c'est vrai que des réunions de maison, par exemple, ça permet justement d'échanger, de parler, de se connaître. Et ça aussi, c'est un enrichissement. Parce que l'autre, le vécu de l'autre, nous apporte toujours quelque chose. C'est essentiel. On ressort toujours grandi d'un échange. Toujours. Finalement, l'échange ne repose pas seulement sur des connaissances, mais sur du vécu, sur des expériences. Et c'est ça qui est essentiel, et c'est ça qu'il faut. On peut connaître la Bible, raconter des dizaines, des centaines. Il y a des gens qui, je ne sais pas comment ils font, qui peuvent vous raconter des centaines de versets par cœur. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas faire ça. Mais est-ce que de connaître les versets par cœur, c'est suffisant? Est-ce que c'est seulement dans l'esprit ou c'est aussi dans notre être? Est-ce que notre corps, est-ce que notre âme, est-ce que notre personnalité, notre façon de nous comporter, est-ce que nos paroles sont imprégnées de ces versets que nous connaissons par cœur? J'en suis pas sûr pour moi-même. Pas toujours en tout cas. Et ça, c'est important. La connaissance, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est la connaissance de Dieu. Ce n'est pas simplement la connaissance de ce qu'il y a dans la parole de Dieu, ou de pouvoir l'expliquer d'une façon théologique, etc. C'est très bien, moi aussi, il y a plein de choses qui m'intéressent. Je connais plein de choses. Je pourrais vous faire aussi un grand cours sur la théorie du Big Bang et l'astrophysique, etc. Parce que ça, c'est ma passion. Mais ça va nous apporter quoi? Est-ce que vous serez grandi après que je vous ai raconté ça? Je ne suis pas sûr. Par contre, on partage sur une petite expérience. L'expérience que Charo a partagée, moi je trouve que ça nous grandit. Parce que c'est du vécu. C'est un homme qui vient et puis qui tout d'un coup a fait une rencontre qui l'a bouleversé et qui jette sa Bible comme ça. J'imagine la tête à Charo quand elle a vu la Bible se arriver boum, sur le truc. Mais cet homme était bouleversé. Et c'est pour ça qu'il était comme ça. Il a été bouleversé par cette expérience. Bouleversé par ce vécu. Avec Dieu. Espérons un vécu les uns et les autres. Un vécu qui nous bouleverse et qui nous fasse sortir de ce que nous sommes d'habitude. Les expériences de chacun, les expériences des uns et des autres nous nourrissent personnellement. Et ça, c'est ça qui est essentiel. Amen.